franceinter.fr.
Bonjour à tous. Il y a un mois, une petite trentaine de députés seulement, sur les plus de 500 que compte l'Assemblée nationale, a définitivement adopté une proposition de loi sur un sujet qui pourrait bien nous intéresser pourtant pendant des siècles, voire au-delà. Ce sujet, c'est celui du centre de stockage des déchets nucléaires de Bure, en Lorraine. Dans cette minuscule commune aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne, on a installé il y a une quinzaine d'années un laboratoire à 500 mètres sous terre. 150 ingénieurs et techniciens y étudient grandeur nature la possibilité d'y entreposer les déchets les plus dangereux de nos centrales nucléaires. Le texte qu'ont adopté les députés il y a quelques semaines concerne le caractère réversible de ce projet, c'est-à-dire que pendant un siècle, les matériaux stockés devront rester accessibles afin de les traiter, si toutefois des progrès technologiques le permettent d'ici là. Mais le site de stockage lui-même sera installé au mieux en 2025. Quels que soient les points de vue, l'existence de ce projet met en lumière quelque chose que l'on a un peu vite oublié. Les 58 réacteurs nucléaires en activité en France génèrent chaque jour des déchets de très longue vie. Les spécialistes ont choisi de privilégier la formule du lieu unique pour les stocker. Mais inutile de préciser que ce choix n'est guère du goût des populations du secteur, pas plus que des organisations écologistes, dont certaines parlent déjà de Tchernobyl souterrain en puissance. Bure, nos déchets nucléaires à 1500 pieds sous terre, c'est un reportage qu'ont réalisé au début du printemps dernier Angéline Demuinck et Nicolas Cutel.
Interception, le magazine de la rédaction.
Voilà. Donc ça y est, nous allons descendre à 490 mètres de profondeur, donc au niveau principal du laboratoire. Donc là, je vous rappelle que le laboratoire est dans une couche géologique entre 422 et 552 mètres. C'est une couche qu'on appelle du calo-oxfordien, c'est la couche argileuse. Et donc nous allons descendre, nous allons mettre environ 7 minutes pour descendre. Nous allons ralentir dans la petite galerie, au niveau de la petite galerie à 445 mètres de profondeur. Voilà. Et nous allons rejoindre les galeries expérimentales du laboratoire.
On est arrivé en bas, la galerie est assez grande, hein, assez impressionnante, et puis on n'a pas du tout l'impression d'être à 500 mètres sous terre parce qu'il y a une petite brise.
Il y a la ventilation de cette installation souterraine, bien sûr. Alors effectivement, on n'a pas forcément l'impression d'être à 500 mètres sous terre parce que ce sont des galeries qui sont extrêmement équipées, extrêmement bien équipées, éclairées, et qui ressemblent tout à fait à des tunnels routiers auxquels nous sommes habitués.
Niveau température, on est à peu près comme à l'extérieur ou il fait plus chaud ?
Mais la température naturelle est ici de 22,3 degrés. Première étape, hein, la liste de secours. 49 personnes, comme on vous l'a indiqué. Nombre de maximum de personnes qui sont au fond en même temps.
Thank you.
Jacques Delay, là, ce qu'on a devant nous, c'est un prototype de ce qui va être stocké dans le centre.
Voilà, on a un colis de stockage. Il fait environ 1,50 m, 1,60 m de long. Il fait 65 cm de diamètre. C'est un conteneur en acier qui contient le colis de déchets radioactifs primaires qui contient lui-même le verre radioactif. Alors, ce conteneur de stockage, ici, ce colis de stockage, comporte à sa périphérie des patins de céramique. Ces patins de céramique servent à les glisser dans les alvéoles. Les alvéoles, c'est ce que vous avez autour de vous. Ce sont des micro-tunnels horizontaux d'un diamètre de 70-75 cm de diamètre. Les colis sont amenés dans le futur stockage à être poussés les uns derrière les autres sur une longueur de plus de 100 mètres.
Là, dans ce colis-là, il n'y a rien de radioactif pour l'instant.
Non, il s'agit bien sûr d'une maquette, hein, car nous sommes ici dans le laboratoire souterrain. Il n'y a aucun colis de déchets radioactifs dans le laboratoire souterrain. Et c'est ici où on fait des expérimentations et des tests technologiques.
Une fois qu'il sera plein, ce colis, est-ce que ce sera dangereux de se tenir à côté comme on le fait là ?
Extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux car il contiendra les verres radioactifs contenant vraiment les déchets concentrés des combustibles de centrales nucléaires. Donc ce seront des colis auprès duquel on ne pourra pas être et qui seront forcément manipulés par des robots.
Même une fois qu'il est enveloppé de sa couche de verre et d'inox, on n'y touche pas.
Non, parce que vous avez l'irradiation. Vous êtes protégé de la contamination, mais pas de l'irradiation.
Jacques Delay, toutes les alvéoles qui ont été construites, elles servent à un test particulier.
Oui, pour chaque alvéole creusée, on a un objectif de mesure, un type de mesure, et on cherche à répondre à une question en général. Il est très difficile de répondre à toutes les questions avec un nombre limité d'alvéoles. Donc vous avez certains alvéoles qui sont dont on étudie la déformation du chemisage. Pour d'autres alvéoles, il n'y a pas de chemisage, mais on étudie le comportement de la roche. D'autres alvéoles comme celle-ci, actuellement, on étudie l'effet de la chaleur, car ces alvéoles sont destinées à recevoir les colis de haute activité vie longue qui dégagent de la chaleur. Donc on met cette fois-ci non pas un colis de déchets radioactifs, mais on met simplement une sonde chauffante qui simule la puissance thermique du colis de déchets radioactifs. Et on mesure autour de cet alvéole les augmentations de température, de pression interstitielle et également on évalue les déplacements et les déformations de la roche.
Toutes ces données, après, qu'est-ce que vous en faites ?
Alors, toutes ces données sont exploitées pour nos dossiers de conception, nos dossiers de sûreté et nos dossiers d'exploitation. Un exemple, pour les pistes qu'on appelle pistes d'optimisation, c'est grâce à ces expérimentations thermiques, on va pouvoir déterminer à quelle distance on met un alvéole par rapport à un autre. De cette distance dépendra un grand nombre de choses, en particulier la longueur des galeries qu'on devra faire, et tout ceci aura des répercussions sur la conception, l'exploitation et aussi la sûreté du stockage.
Est-ce que vous testez aussi les risques comme incendie, inondation, panne de courant par exemple ?
Bien entendu, cette problématique d'inondation, d'incendie, de ce que vous avez signalé ou d'inondation sont des problématiques de tunnels routiers. Et donc on s'appuie sur tous les professionnels, toutes les entreprises qui ont déjà une grande expérience dans les tunnels routiers, ferroviaires, qui sont confrontés à cette problématique de sécurité d'une installation.
La différence, c'est que le tunnel routier, finalement, on peut toujours agir dessus, alors que dans le centre d'enfouissement, une fois qu'il sera fermé, il va falloir qu'il s'autogère.
Alors évidemment, ces risques sont importants en phase d'exploitation. Donc si vous dites que l'on est en phase d'exploitation, ça veut dire qu'il y a des gens et qu'on peut gérer la situation. Une fois que le stockage est fermé, c'est-à-dire en sécurité, en sûreté, il n'y a pas de risque, à proprement parler, d'incendie, d'inondation ou autre. Il n'y a plus d'exploitation, il n'y aura plus personne à l'intérieur. Et les galeries, à la fin de vie du stockage, les galeries seront scellées.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'une fois que le centre est fermé, il n'y a plus de problème de sécurité.
Alors il n'y a plus de problème de sécurité opérationnelle pour les gens et les travailleurs, mais on rentre dans un autre domaine qui est la sûreté à long terme. Et là, l'ensemble des études que l'on réalise aujourd'hui doivent nous permettre de garantir que cette sûreté à long terme, une fois que tout est fermé, est effectivement garantie.
Par exemple, risque de séisme, est-ce que c'est probable ici ?
Alors des séismes, il y en a tous les ans. et il y en a tous les ans des séismes. On en mesure les zones sismiques, en fait, les plus proches se situent dans les Vosges, à environ 80-90 km de distance. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on s'est mis ici à l'égard de toute faille. Et c'est un des critères de choix de ce site géologique, qui est d'être à l'écart de toute faille, et donc il n'y a pas de risque lié au séisme direct, c'est-à-dire risque d'ouverture, risque de fracturation.
Jacques Delay, il y a une question qui se pose. Ce site, ce centre CIGEO, s'il voit jour, il restera actif pendant plusieurs milliers d'années. Et du coup, il y a la question de la mémoire, de la transmission pour les générations à venir.
Il faut bien voir deux choses. Le centre sera construit et exploité pendant 120 ans. Donc c'est une durée relativement limitée pendant laquelle on pourra conserver toute l'information obtenue. Maintenant, je vous ai dit que ces déchets radioactifs étaient nocifs pour 100 000 ans. Et à cette échéance de 100 000 ans, eh bien, il n'est pas possible de garantir que l'on puisse transférer toute l'information aux générations qui seront là dans 100 000 ans.
Surtout que le but, c'est que le centre soit fermé et que finalement, on l'oublie presque.
Alors, le centre, le but n'est pas de l'oublier, mais il faut s'attendre à ce qu'il puisse être oublié. À 500 mètres de profondeur, au bout de quelques centaines d'années, milliers d'années, dizaines de milliers d'années, il est possible qu'il soit oublié. Donc il est important, de garantir la sûreté à très long terme, c'est pour ça qu'on pense au stockage géologique, mais il faut également permettre un contrôle de la société le plus longtemps possible avec les moyens dont on dispose pour transmettre l'information.
C'est justement une question purement technique. Comment on va transmettre cette information à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années?
Alors pour transmettre cette information, on a développé quelques techniques, des papiers permanents pour quelques centaines d'années et ces documentations resteront accessibles. On développe d'autres supports tels le disque en saphir que vous avez ici qui a une durabilité de l'ordre d'un million d'années. En fait, on grave directement les informations et avec une simple loupe, on est capable de relire le document. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel sera le langage qui sera parlé dans quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années. Donc, nous mettons en place les dispositifs et la transmission d'informations pour qu'elles puissent se transmettre le plus longtemps possible. Mais, évidemment, sur des échelles pareilles, on ne peut pas garantir que les documents que nous produisons aujourd'hui restent lisibles pendant 100 000 ans.
Là, par exemple, on a un disque de saphir sous les yeux. Qu'est-ce qu'il y a comme information dessus?
Alors, sur ce disque de saphir, il y a tout simplement un rapport. C'est-à-dire, il y a un texte, il y a des courbes, il y a des plans qui décrivent comment sont installées les installations du laboratoire, comment elles sont disposées, et décrivent les études et l'objet du laboratoire souterrain.
C'est une problématique qui vous préoccupe beaucoup à l'ANDRA?
Beaucoup. Actuellement, c'est un sujet qui est très important parce que c'est un sujet qui devrait être porté par l'ensemble de la société. L'ANDRA a une mission de concevoir et stocker les déchets radioactifs et de les surveiller pendant une période de surveillance institutionnelle. Mais aujourd'hui, on parle de quelques centaines d'années. La dangerosité, c'est pour 10 000 ans, 100 000 ans.
Écoutez, très sincèrement, je pense que ce projet est aussi sûr qu'on peut le concevoir en fonction de ce que nous avons actuellement. Et si vous me permettez une réflexion personnelle, si je n'en étais pas persuadé, pardon, je ne serais pas resté à l'ANDRA.
Jean-Paul Baillet est à la fois directeur adjoint de l'ANDRA et directeur du centre de recherche de Bure. Donc vous testez ici tous les accidents, toutes les choses qui peuvent arriver
Disons
sur les prochaines
années. Nous imaginons ici D'abord, dans un premier temps, c'est-à-dire entre les années 2000 et 2005, nous avons étudié la capacité de la roche à faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire confiner la radioactivité. À partir du moment où nous avons rendu un rapport en 2005, où nous avons écrit que nous pensions effectivement que la capacité de cette roche à confiner la radioactivité est réelle, eh bien nous avons eu, si j'ose dire, la loi de 2006, qui nous demande à la fois de poursuivre bien évidemment les études fondamentales et d'étudier les conditions de constructibilité, de construction du stockage, si le stockage est autorisé. Par conséquent, à la fois nous étudions les dispositions de constructibilité de CIGEO et nous devons étudier, à la demande de l'ASN bien sûr, et puis de la Commission nationale d'évaluation et d'autres organismes qui nous contrôlent, toutes les situations de crise qui pourraient apparaître, notamment sur le plan technique, autrement dit des incendies, des effondrements, des intrusions, et ceci sur une longue durée, parce que je vous rappelle que CIGEO doit être conçu pour être en activité plus d'un siècle.
Pour revenir sur l'accident qui s'est passé le 26 janvier dernier, la mort d'un ouvrier dans une des galeries, est-ce que ça remet en cause la sécurité du site ?
Rigoureusement pas, si vous voulez, pour une raison extrêmement simple, c'est que nous avons eu un accident dramatique puisqu'il y a mort d'homme, mais c'est un accident de chantier. Voilà, il y a eu un accident qui s'est produit sur une zone de chantier. Malheureusement, quelqu'un est décédé. Je dis malheureusement parce qu'il s'est trouvé, si on peut dire, au mauvais endroit, au mauvais moment, comme tout accident, que ce soit un accident d'avion, un accident de la route. Mais ça ne remet pas en cause ni le fonctionnement du laboratoire, et encore moins CIGEO, pour une raison extrêmement simple, c'est que les tunnels et les galeries et les alvéoles de stockage de CIGEO seront construits de telle sorte que même si un accident de chantier, je dis bien accident, donner de la gravité à la chose se produisait, eh bien, si l'accident devait avoir des conséquences en termes de constructibilité, l'alvéole ne serait pas mise en service. Mais je vous ferai remarquer qu'hélas, il y a eu aussi des accidents dramatiques dans les tunnels. On a interrompu la circulation, on a réparé, la circulation a repris.
Pour les opposants, ça va plus loin, puisque pour eux, ça remet en cause la qualité finalement de l'argile et du sol.
Mais quand on s'oppose, c'est un droit strict. On peut s'opposer, mais forcément, on ne peut pas demander à un opposant d'avoir le même point de vue que le maître d'ouvrage.
Autour du laboratoire de l'Andra, les murs, les panneaux de signalisation, les rochers même sont ornés de tags ou d'autocollants anti-nucléaires. Ici, la lutte contre l'enfouissement des déchets est née presque en même temps que le labo, des habitants du coin qui ne voulaient pas de ces déchets sous leurs pieds, mais aussi des citoyens de toute la France. Ils se sont installés ici, dans une maison en plein cœur du village de Bure.
Alors, ces portes-là aussi, elles sont assez jolies, c'est assez moyenâgeux. Donc voilà, donc ça c'est la partie jardin, donc là on s'est improvisé une petite serre maison.
Et au fond on voit, il y a une éolienne, vous avez votre propre éolienne.
C'est ça, donc auto-construite.
Ginette.
Ginette.
Elle a un petit nom.
Ginette.
Et Ginette, ouais. Elle vous apporte beaucoup d'électricité?
Ça marche plutôt pas mal. S'il n'y a pas trop d'ordi dans la maison de brancher, ça permet d'alimenter un ordi, le frigo, les lampes.
Comment ça se passe justement avec les voisins?
C'est compliqué ça. Hein.
Ça a été compliqué au début et de plus en plus ça va mieux en fait. On a de plus en plus de communication. Eux prennent aussi conscience de l'ampleur du truc et de l'aberration du projet en fait. Que ce soit ici dans le village ou même dans les villages aux alentours, pas que ici en fait. C'est sûr qu'ici on est plus impacté parce qu'on vit à côté, mais nous on se met aussi dans la même problématique qu'eux en fait. Il y aura ça en dessous de vos pieds, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que réellement l'argent en compensation est bien pour ceux qui ont accepté de l'argent? Ou est-ce que, et encore c'est que on le disait tout à l'heure, on achète les consciences avant que le projet, donc c'est même pas par rapport, c'est juste l'argent, c'est juste par rapport au laboratoire, mais et que derrière c'est... peu importe on est tous ici au même endroit, on sera tous impactés par le projet et, prenons conscience du truc et essayons d'avancer ensemble en fait.
Bon.
Je m'appelle Albin Monti et je suis picard.
Et vous êtes à la maison de la résistance de Bure depuis combien de temps ?
Alors moi je suis venu sur la lutte à Bure en 2000. C'était l'année où il y avait eu la marche de Lascaux Bure. Et c'était intéressant parce que ça nous montrait vraiment la distance entre ce que peuvent nous laisser les hommes préhistoriques à nos jours, au niveau culturel, etc. Et nous, ce qu'on va laisser comme déchets nucléaires à des générations qui seront dans... à la même distance. Et du coup, c'est vrai que mentalement, c'est très difficile d'avoir un espace-temps sur cette longueur-là. Et tout doucement, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, dont la dangerosité du nucléaire, que j'avais déjà, mais que des menteurs et des menteurs et des remonteurs continuent à perdurer cette chose-là.
Ça fait 16 ans maintenant que vous êtes au fait du projet, que vous vous renseignez. Vous n'avez pas changé d'avis sur le sujet ?
Ben, quand on me prouvera le contraire et quand j'ai des menteurs en face de moi, je ne peux pas changer d'avis. Je suis désolé.
Vous dites menteur, c'est vous parlez de l'ANDRA, l'Agence de gestion des déchets.
Oui.
Sur quoi ils vous mentent selon vous ?
Ben, ils ont une solution, ils n'en ont pas. Ce n'est pas une solution de mettre des déchets nucléaires, c'est un trou. Qui dit que c'est une solution ? C'est eux. Scientifiquement, éthiquement, ce n'est pas une solution. Déjà, à la base, ils nous ont vendu le nucléaire. Vous inquiétez pas, dans les années 70, on va trouver une solution. Ils n'en ont jamais trouvé. Donc, moi, ce que je dis, c'est pour ça que je suis venu sur cette lutte-là, c'est qu'il faut l'arrêter, le nucléaire.
Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets ?
Après, c'est pas à moi de répondre à la question. Moi, je suis pas... J'ai jamais dit que moi, je savais faire. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par contre, ce que je veux, ce que je demande, c'est qu'on arrête les centrales nucléaires, qu'on arrête de produire au plus rapidement possible. Après, la réponse, effectivement... Quand on aura arrêté le nucléaire, je me poserai peut-être la question. Parce qu'effectivement, il y a des polluants, aussi bien chimiques que radioactifs. Et là, il faut trouver une solution. Mais c'est certainement pas les enfouissants. Moi, je suis atterré de penser que quand on prend un caillou, qu'on tape dessus, c'est enfantin. On prend un caillou, on prend un marteau, on tape dessus, il se fend. Donc pourquoi la roche sous cette terre ne se fendrait pas à partir du moment qu'on va la pénétrer ? Sachant qu'il y a une faille à Gondrecourt, il y a une faille à Joinville, même si nous, en tant qu'êtres humains, dans les centaines d'années, voire peut-être le prochain millénaire, on risque, entre guillemets, pas grand-chose, la géologie, elle pousse, quoi. Et c'est impossible que ça reste en l'état. Le travail des miniers, ils savent très bien que ça va s'effondrer. Là, il y a eu un accident, on ne sait pas tout. C'est quand même des gens qui se disent performants, pour faire des trous, pour que ces trous-là ne bougent pas, et ça bouge. Mais c'est pas grave, dormez tranquille, brave gens.
Le premier coup de pioche du laboratoire souterrain a été donné en janvier 2000 sur la commune de Bure. Commence alors une opération séduction auprès des élus et des habitants. L'ANDRA veut faire accepter son projet, mais certains voisins résistent. C'est le cas par exemple du maire de Bonnet, un village de 200 habitants situé à 8 km du labo.
Je suis monsieur René Léjean-Pierre, je suis agriculteur retraité et j'ai été maire de la commune de Bonnet de 1995 à 2014.
Là, on se trouve où ?
On se trouve dans mon bureau.
C'est là que vous gardez tous vos documents sur Bure ?
Oui, c'est mon coffre-fort. Pendant ma période de maire, et encore un petit peu aujourd'hui, les documents étaient classés mois par mois.
Donc ça veut dire quoi ? Vous lisiez la presse, vous cherchiez tous les documents qui se rapportaient à ce projet CIGEO ?
Découper les articles de presse, reprendre tous les documents, enfin, la plupart des documents qui nous venaient de l'ANDRA. Ça fait un petit peu de paperasse. Bon, je peux vous montrer...
Oui, je veux bien.
Donc, vous voyez, là, c'est classé mois par mois. Hein, il y a quand même, il doit y avoir 5-6 années là, hein, qui sont classées, ou peut-être plus.
Ça fait une armoire complète presque.
Pratiquement une armoire complète.
Alors vous, Jean-Pierre Grémelet, vous avez été maire de Bonnet pendant presque 20 ans. Vous étiez là dès le départ. Alors racontez-moi comment ça s'est passé.
Moi, dès le départ, j'étais obligé de vous dire que je n'étais pas un opposant. Au début des années 90, je regardais le projet d'un petit peu loin. Je n'ai pas peur de le dire, quoi. Et bon, je suis rentré dans le sujet quand j'ai été élu maire.
Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, alors?
Oh, bien des choses. Disons la première approche de l'Andra vis-à-vis des élus, pour commencer, quoi. Ils avaient une façon bien particulière. Un chargé de mission, hein, BC, BG, costume, cravate, attaché caisse. Bon, il n'avait pas les billets dedans, mais hein, il était là pour vous rendre tous les services possibles qu'il aurait pu vous rendre, alors qu'en fin de compte, jusqu'en 99, il ne pouvait rien faire.
Donc ce monsieur est venu vous trouver et a commencé à essayer de vous convaincre ?
Il faisait le tour des maires, non, mais vous savez, 95, c'était les élections. Dans un petit village... J'étais conseiller municipal depuis 1971, mais je vous assure que j'ai découvert beaucoup de choses quand j'ai été élu maire. J'avais peut-être ma façon à moi d'aller aux subventions, d'aller rencontrer les gens, d'aller monter mes dossiers. Donc j'ai toujours monté mes dossiers sans l'aide de l'Andra, quoi. Je ne pense pas que tous mes collègues peuvent en dire autant, quoi.
Vous avez l'impression que vous étiez le seul à vous opposer à ce projet ?
Oui, sur les 33 communes du périmètre, bon, il y a des communes qui sont en Haute-Marne, des communes qui sont en Meuse. Sur les 33 communes, la commune de Bonnet était la seule à prendre une délibération, quoi.
Nous arrivons maintenant à Goudrecourt-le-Château, c'est la plus grande commune du secteur, il y a 1200 habitants ici. On se trouve à une dizaine de kilomètres de Bure, autour de nous des trottoirs flambant neufs, des panneaux lumineux d'information dernier cri, une mairie fraîchement rénovée. La commune reçoit chaque année 600 000 euros de dotation de la part d'EDF, d'Areva et du commissariat à l'énergie atomique.
Je m'appelle Stéphane Martin, j'ai 39 ans, maire de Goudrecourt-le-Château depuis 2004, donc réélu pour un troisième mandat en 2014. Je préside également la CODECOM du Val-d'Orne, donc le secteur de Goudrecourt qui regroupe 19 communes depuis avril 2014.
On est à combien de kilomètres à vol d'oiseau du site d'emplacement du projet CIGEO ?
Alors depuis Goudrecourt, on est à 8 km à vol d'oiseau de l'éventuel site d'enfouissement, 8 km donc de l'actuel laboratoire de recherche.
Vous êtes maire donc depuis 2004, vous avez suivi les différentes étapes du projet. Dans quel état d'esprit vous étiez au départ ?
Globalement, j'ai toujours été plutôt favorable au laboratoire. Le laboratoire s'est installé en 99, donc bien avant que je sois maire, et déjà à cette époque, j'étais plutôt favorable. Et je dois dire que je m'y suis vraiment intéressé donc depuis l'élection, la première élection en 2004.
Pourquoi vous êtes favorable à ce projet ?
Parce qu'aujourd'hui, les déchets existent. C'est une réalité. Et qu'il est indispensable de trouver une solution pérenne quant à la gestion de ces déchets. Naturellement, lorsqu'on parle de déchets, ça peut inquiéter. Lorsqu'on parle de nucléaire, ça inquiète fortement. Donc vous mettez déchets, nucléaires, déchets radioactifs, ça inquiète encore beaucoup plus. Il ne s'agit pas de faire de notre territoire une poubelle, parce que lorsqu'on parle de déchets, de décharges, c'est souvent assimilé à des poubelles, mais simplement des sites d'excellence sur le territoire.
Vous pensiez avant tout au développement économique de votre commune et des communes alentours ?
C'est avant tout à cela que je pense, naturellement, développement économique, reconnaissance du territoire, excellence du territoire. Aujourd'hui, le laboratoire de Bure est l'un des seuls laboratoires au monde, et toute la filière électronucléaire suit de près ce qui se passe à Bure et regarde avec attention ce qui se passe à Bure. Et le nombre de visiteurs étrangers, de scientifiques étrangers qui viennent à Bure, font de ce site l'excellence au niveau mondial.
Concrètement, là, on voit de votre fenêtre, les infrastructures ont l'air neuves. Ça joue aussi dans l'entretien de la commune ?
La loi de 2006 prévoit que les communes dans un rayon de 10 km touche une dotation à l'habitant, qui est, pour être précis, de 485 euros par habitant. Je vous laisse faire le compte pour la commune de Gondrecourt, 600 000 euros. Simplement 600 000 euros qui nous permettent de préparer l'arrivée de population, de transformer la commune, de mettre en place un certain nombre de services. Voilà à quoi servent ces dotations. Ça me permet de ne pas avoir augmenté la fiscalité malgré les baisses de dotations de l'État depuis 2004, donc 12e année, 12e budget sans augmentation de la fiscalité. Nous n'aurions pas pu faire tous ces travaux si nous n'avions pas eu ces dotations.
Les opposants, eux, disent que cet argent finalement sert à acheter les élus et les habitants. Vous ne voyez pas comme ça, vous ?
J'ai déjà répondu que ma conscience n'avait pas de prix et que quelle que soit la somme qui serait versée, ça n'achèterait pas ma conscience.
À Gondrecourt, le château, tout le monde n'est pas de l'avis du maire. Les habitants du canton opposés au projet se sont regroupés au sein d'une association. Son président est kinésithérapeute et son cabinet se repère de loin. Un immense panneau, déchets nucléaires, ça empoisonne, s'affiche au-dessus de sa porte.
Ah oui, fin mars.
Oui.
Alors madame, vous êtes habitante de Gondrecourt ?
Non, de Trèveré.
C'est juste à côté de Gondrecourt ?
Oui, c'est 8 km.
Alors ce projet CIGEO, vous en avez sans doute entendu parler ?
Oui.
Vous avez suivi ce qui peut se passer, c'est-à-dire que le centre...
Oui, bah, ça nous fait un peu la trouille, hein, ça.
Pourquoi ?
Bah, parce que on n'est peut-être pas tellement bien renseigné sur tout ce qui... se fait, ce qui va se faire. Voilà.
Le fait d'avoir des déchets nucléaires sous vos pieds, ça peut vous inquiéter ?
Oui. Je sais qu'il faut qu'on traite les déchets, qu'on ait un endroit pour les mettre, mais bon, sous nos pieds, ça fait peur.
Bonjour, je m'appelle Laurence Dupont, j'habite à Léroise, donc à 10 km de Gondrecourt et donc une vingtaine de Bure.
Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce projet CIGEO ?
Je suis contre.
Alors pour quelle raison ?
Parce que les déchets nucléaires, dans notre coin, on n'en avait pas besoin. Où les mettre, on ne sait pas, mais pas forcément ici.
Vous avez toujours habité dans ce coin-là ?
Oui.
Du coup, vous avez vu l'implantation progressive de l'ANDRA, du laboratoire ?
Oui.
Comment vous l'avez vécu ?
De loin, parce que je ne me rendais pas compte de ce qui pouvait se passer. Maintenant, de plus en plus, on voit et on va voir les impacts qu'il va avoir... sur le long terme, même si on ne s'en rend pas compte.
Vous avez peur pour quoi ? Pour votre santé ?
Ma santé, mes enfants. Et tout ce qui va arriver futur, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment.
Comment vous vous renseignez aujourd'hui sur ce projet ?
Je regarde, on a beaucoup les livres de Bure qui arrivent dans les boîtes aux lettres. Et après, j'essaie de regarder. Pour les réunions d'information, souvent je travaille, donc je ne peux pas y aller. Mon mari regarde pas mal ce qui se passe, mais on ne sait pas vraiment tout ce qui se passe, quoi.
Et est-ce qu'on vous a demandé votre avis à un moment ou à un autre sur ce projet ?
À moi, personnellement, non. Et je ne me suis pas non plus assez impliquée, je pense, à ce moment-là, quoi.
Vous n'aviez pas conscience des enjeux ?
Non, pas du tout.
Léa, tu peux mettre le manio à Yves, s'il te plaît ? Léa.
Non.
C'est rendu au Léa, fait le nom, moi, dans ce moment.
Bonjour, je m'appelle donc Jean-François Bodenreder. Je suis président de l'association des habitants vigilants du canton de Gondrecourt-le-Château, opposé à l'enfouissement des déchets radioactifs dans notre secteur, mais aussi d'une façon générale.
Vous, pourquoi cette opposition à la base ?
En fait, on s'est créé pour informer les gens. On a fait des réunions et on a fait venir des témoignages de Fukushima, des irradiés du Sahara. On a fait venir la CRIRAD pour comprendre ce que c'est que la radioactivité. Et pour faire comprendre aux habitants, nous, on a une mission d'information, et c'est la contre-information officielle de l'ANDRA, en fait, qui prêche vraiment que du beau, que du neuf et sans risque. Mais on dit non, attention. Et on a de plus en plus de personnes qui se rallient à notre cause et qui sont, par rapport à leurs compétences scientifiques, à même de dire, d'après les études, d'après les connaissances qu'on a, scientifique, un géologue, un des ingénieurs, on est opposé également à ce projet.
L'enfouissement, c'est pas la solution pour vous?
Largement, largement pas la solution. Quand on fait la poussière dans notre maison, on la met pas sous le tapis.
Quand Landra dit voilà, c'est la solution la plus sûre qu'on ait trouvée, ils en ont envisagé plusieurs, vous n'êtes pas convaincu?
Le discours de Landra évolue. Au départ, on parlait d'un coffre-fort étanche, que c'était super hermétique, que la radioactivité ne passerait pas. Puis, quand on commence à gratter, nous, dans les réunions de Landra, on vient asticoter un petit peu les personnes qui sont là, et on commence à dire, non, les radionucléides, ils vont sortir de ce coffre-fort-là, tout doucement, mais tellement doucement que quand ils arrivent à la surface, ils seront plus dangereux. Puis après, on apprend qu'il y a des cheminées d'évacuation, des cheminées de refroidissement. Et après, on va apprendre que non, les déchets, ils vont pas arriver directement en train puis descendre sans attendre. On va les laisser un petit peu en surface, mais ce sera qu'un autre posage, que quelques mois, mais seulement quand ils descendent, on en amène d'autres. Donc finalement, il y aura toujours une autre radioactivité en surface. Et puis finalement, si on a le temps, si on a les sous, ben on verra bien pour les enfouir. Voilà ce qui commence à se dire, et on risque, nous, on a très peur d'écoper finalement, non pas d'un stockage en souterrain de déchets radioactifs, et c'est quelque chose qui peut être soulevé aussi, mais c'est d'un entrepôt en surface, comme à La Hague. Il faut aussi pas se voiler la face que La Hague est devenue saturée en radioactivité et en surface, en volume. Donc il faut bien les mettre quelque part. On a peur de devenir La Hague numéro 2, ça c'est clair. Landra distille ces informations tout doucement. Il faut poser des questions. Ah ben oui, mais tiens, est-ce que vous avez pensé à ça? Ah ben non, on va l'étudier, ou on est en train de l'étudier, ou alors non. On dirait que la recherche sur ce point-là avance tellement lentement, et pourtant ils font croire, puisqu'ils ont commencé des recherches archéologiques en surface, ils font croire que le projet va être accepté, et puis il n'y a aucune autorisation. Et nous, on dit dans nos réunions aux habitants que pour l'instant, rien n'est fait.
Si le projet est validé, le premier colis arriverait autour de 2030. Est-ce que vous, ça vous pousserait par exemple à quitter la région?
Ah, c'est clair que je ne pourrais pas cohabiter avec les déchets, oui. Oh, oui.
Nous produisons 2 kg de déchets radioactifs par an, et par personne, ça représente 20 g de déchets dits ultimes. En gros, c'est l'équivalent de la surface d'un stade de football rempli sur une hauteur de 8 mètres. Dans le centre de stockage géologique, les colis radioactifs seront répartis sur 300 km de galerie. Mais pour que ce projet voie le jour, il faut un nouveau cadre législatif. Une proposition de loi est déjà déposée à l'Assemblée nationale. Son auteur est le député socialiste de Meurthe-et-Moselle, Jean-Yves Le Déo.
Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, il est irresponsable de ne pas se préoccuper de la question des déchets. Car le nucléaire existe maintenant depuis bientôt 40 ans, civil. Le nucléaire militaire existait déjà. Et il faudra, dans tous les cas, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, il faudrait se préoccuper de cette question.
Mais alors, ça veut dire qu'au moment où on s'est lancé dans le nucléaire, c'est à ce moment-là qu'on a été irresponsable parce qu'on n'a pas pensé à ces déchets?
On y a pensé, mais le nucléaire, on s'y est lancé parce que le général de Gaulle souhaitait une indépendance énergétique. Le nucléaire a des dangers, et le principal danger n'est pas, à mon avis, les déchets. Le principal danger, on l'a vu dans Tchernobyl ou Fukushima, c'est l'explosion d'une centrale nucléaire. Les déchets, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas provoqué des accidents majeurs. Il y a eu des incidents, notamment au Nouveau-Mexique, où je me suis rendu, dans un centre de stockage. Cet incident... qui est un feu au fond du centre de stockage, on l'a analysé. Mais quand on gère cette question avec la création d'une autorité de sûreté nucléaire, comme en France, on sait gérer la question des déchets, et en plus, on met en place ce qu'on appelle la réversibilité sur au moins 100 ans. C'est-à-dire, on va avoir des déchets qui vont sortir d'une centrale, ils vont refroidir pendant 50 ans, et après, on pense que pendant 100 ans, on doit pouvoir les récupérer. L'autorité de sûreté nucléaire, elle est tout le temps présente. Et si jamais elle pense qu'il y a effectivement un danger, elle stoppe et elle arrête. Retarder à un moment donné la recherche de solutions sur des sujets difficiles, c'est adopter la politique de la patate chaude. C'est très facile en politique. Finalement, au lieu de vous brûler, eh bien, la patate, vous la transmettez à votre successeur. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. On a aujourd'hui eu des options énergétiques que nous n'avons pas choisies. Une autre génération va nous succéder. Si jamais on n'a pas traité de cette question, eh bien, c'est l'autre génération qui devra la traiter, sans doute pour beaucoup plus cher et avec une sécurité moindre.
Dernière question, Jean-Yves Le Déo. Le coût, Ségolène Royal a tranché 25 milliards d'euros. Est-ce que ça vous paraît cohérent ?
C'est très bien que vous me posiez cette question, parce que je vais dire que finalement, des débats comme ceux qu'on a vus au mois de janvier sont pas sérieux. On demande de faire une évaluation et une optimisation du coût de la maintenance tant que le laboratoire sera en service. On sait pas combien de temps il sera en service, 100 ans, 150 ans. On ne sait pas quelles sont les conditions de réversibilité aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a pas fixé la réversibilité, donc on n'a pas fixé par la loi le temps que ce sera, et on demande de l'évaluer. C'est une folie. Et même, je dirais, avec tout le respect que j'ai pour la ministre de l'Environnement et de l'Écologie, dire 25 milliards, c'est en gros, je coupe la poire en deux, mais ça ne signifie rien. Et je crois que ces questions-là devraient être débattues au niveau national en posant toutes les questions. Ce que le citoyen est capable de comprendre, et y compris, je le vois sur les déchets. Je suis allé à Bure faire une conférence. Eh bien, la salle était pleine à Bure, et ça s'est très bien passé, y compris en débat avec la maison du projet et des opposants. On a échangé des arguments, on les a échangés avec la salle, les gens ont indiqué ce qui leur faisait peur. Il faut permettre au débat d'exister. Et ceux qui, à un moment donné, par des actions violentes, refusent le débat, à mon sens, ils vont pas dans le sens de la démocratie.
Premièrement, d'informer le public sur le projet dans son détail.
Mon débat public, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez rien, le débat public c'est quoi ? C'est rien.
On n'en veut pas, alto fo débat, plus on n'en veut pas, alto fo débat, plus on n'en veut pas.
C'est une honte, c'est une honte,
c'est ça la démocratie.
C'est un mépris absolu des populations de Seine. Voilà ce que vous êtes en train de faire.
Alto fo débat, plus on n'en veut pas, alto fo débat, plus on n'en veut pas, alto fo débat.
C'est ça le jeu de votre commission du débat public, on n'en a rien à faire. Ça ne prendra pas cette fois-ci.
Suspension de séance d'un quart d'heure.
Personne n'est au pouvoir aujourd'hui d'empêcher 60 000 citoyens de s'exprimer. Je le dis au président, il y en a marre qu'on nous prenne pour des cons. Il y en a marre.
Je m'appelle Corinne François, je fais partie de l'association Burstop 55, qui est un collectif meusien, donc en lutte contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires ici chez nous.
Corinne François, il y a eu un débat public qui finalement s'est terminé sur Internet parce que des opposants venaient interrompre les réunions publiques. Mmh. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça a privé les citoyens d'une partie des informations ?
Ah non, non, non. Nous avons fait partie des associations qui ont lancé le boycott de ce débat public. Parce qu'il faut savoir qu'en 2005, on a déjà eu un débat public sur la gestion des déchets nucléaires. Et on s'est vite rendu compte, au départ, on s'est dit « chouette, on va enfin débattre, puisque ça fait longtemps que nous demandons un référendum, que nous demandons d'être consultés, d'être... voilà ». Et on s'est très vite rendu compte que ce débat public, tel qu'il est conçu en France, il arrive une fois que les décisions sont prises. Et pour nous, ça, c'est pas du débat. Voilà. Il y avait déjà des choses très décidées. Il y avait déjà Bure qui se construisait avec un labo. Et puis ce qu'on nous demandait, c'était quelque part de nous exprimer, mais pour satisfaire quelque part à des directives européennes, par exemple. En 2013, on a regardé l'objet du débat public. C'était Pour nous, une grande campagne d'information sur le projet Cigéo, rien d'autre. Alors que nous, à la base, depuis toujours, nous demandons à être consultés sur la question de l'enfouissement. Est-il, oui ou non, possible d'enfouir des déchets nucléaires? Est-ce qu'on est d'accord? Quels sont les risques? Qu'est-ce que ça signifie pour notre génération et les générations à venir? Et en fait, on s'est rendu compte qu'en 2013, c'était pas ça du tout. Quelque part, c'était un petit peu, est-ce que vous voulez les tuyaux en jaune ou en rouge, par exemple? Voilà. Parce qu'en fait, tous les risques sont balayés. Tout est évacué. Et puis, les choses un petit peu gênantes, eh ben, on n'en parle pas. Donc voilà, nous c'est clair, nous ne voulons pas de l'enfouissement et aller discuter du projet Cigéo, non.
Corinne François, vous attendez à cette question, vous êtes contre l'enfouissement, quelle solution du coup pour les déchets?
On se rend compte qu'il n'y a pas de solution pour gérer les déchets, juste dépisaler, et encore pour l'instant ils ne sont pas vraiment mis en œuvre parce qu'on ne sait pas comment les mettre en œuvre. Est-ce que c'est à nous citoyens de résoudre le problème? Non. Hein? C'est pas à nous, riverains, d'accepter une poubelle nucléaire sans rien dire. Après, ce que nous disons, ça fait 20 ans que nous disons, l'enfouissement n'est pas une solution. Il faut arrêter de produire ces déchets ingérables. On aurait pu faire l'économie de 20 années de production, enfin même de plus de 20 années de production de déchets. Donc déjà là, le problème à la base, c'est agir sur la source des déchets. Donc un, il faut impérativement, et moi je pense au prochain gouvernement qui arrive, tirer le bilan de la filière électronucléaire, un vrai bilan, honnête, arrêter de dire que le nucléaire n'est pas cher, qu'il n'est pas dangereux et qu'il est propre. Ça, déjà, on fera un grand, grand pas. Ensuite, il faut absolument qu'on s'oriente vers d'autres modes de production, qu'on arrête le nucléaire. Donc aujourd'hui, la France, elle se retrouve avec une énorme masse de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Pourquoi ne pas les laisser sur les sites de production pour limiter les transports? Si Cigéo est décidé, cela veut dire aussi deux transports de déchets atomiques les plus dangereux par semaine pendant un siècle, plus d'un siècle. Ce qui veut dire un trafic de matières nucléaires excessivement dangereux qui est incroyable, quoi. Pour nous, ça ne nous paraît pas du tout réaliste, ni crédible, ni responsable, et c'est excessivement dangereux.
Nos déchets nucléaires à 1500 pieds sous terre. C'était un reportage d'Angéline Demuinck, prise de son Nicolas Cutten, tous deux de France Bleu Sud-Lorraine. Ce reportage a été diffusé une première fois le 20 mars dernier. Mixage Olivier Dupré. Interception est une émission réalisée par Anne Lureau, assistée cette semaine de Stéphane Combe et Sophie Hoffmann. Je vous souhaite un très bon dimanche. À la semaine prochaine.